Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Mège. Réalisation Lise Gaume. Autour de moi ce soir, Raphaël Léris, Grégoire Leménager, Laurent Nunez pour parler ensemble du tonneau magique de Bernard Malamud chez Rivage. Traduction José Camoun. Traduction José Camoun aussi pour 1984 de George Orwell. Nouvelle traduction donc chez Gallimard. Et chez Gallimard également, une sorte de cadavre exquis ce soir. Scarbius, moi je dis Scarbius. Vous dites comment vous, Laurent Nunez?
Scarbius.
Bon.
On verra, justement.
Allez, Scarbius. Et moi, c'est le livre d'Antoine Bello. Boris Pinault, ça je sais comment ça se prononce, est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des exemplaires de papier, la revue de France Culture, c'est le numéro 25, avec pour thématique « Où vivons-nous ?» Des paysages et des pays, c'est édité par l'édition Radio France et Exil. Nous ouvrons cette dispute avec un auteur que nous avons évoqué récemment lors de notre émission en hommage à Philip Roth, Bernard Malamud, dont les éditions Rivage publient un recueil de nouvelles, Le tonneau magique, dans une traduction donc de José Camoun. Né en 1914 à Brooklyn, mort à New York en 1986, l'écrivain américain était fils de parents juifs immigrés russes. Lauréat de deux National Book Awards, premier lauréat du prix Pulitzer, l'auteur reste quand même assez méconnu en France. Les éditions Rivage ont donc entrepris de republier dans notre pays romans et nouvelles de Malamud, dont ce tonneau magique qui reçut en 1959 le National Book Award. Il n'y a pas si longtemps, vivait à New York, au nord de la ville, dans une petite chambre minimale et néanmoins bourrée de livres, Léo Finkel, qui étudiait à la yeshiva pour devenir rabbin. Au bout de 6 ans d'études, il devait être ordonné au mois de juin et une personne de son entourage lui avait laissé entendre qu'il lui serait peut-être plus facile de s'assurer une congrégation s'il était marié. En l'absence de perspective de mariage immédiate, après 2 jours éprouvants, passés à retourner le problème dans sa tête, il avait fait appel à Pinay Salzman, marieur, dont il avait lu les 2 lignes de publicité dans le foreword. L'homme apparut un soir dans la pénombre du couloir, au 4e étage de l'immeuble en pierre grise où vivait Finkel, serrant dans sa main un portfolio noir retenu par une courroie et élimé par l'usage. Salzman, dans le métier depuis longtemps, était quoique de corpulence frêle, digne dans son maintien. Il portait un vieux chapeau et un manteau trop court et trop serré pour lui. Il sentait franchement le poisson dont il était friand et malgré les quelques dents qui lui manquaient, il n'était pas d'un abord désagréable grâce à ses manières avenantes qui contrastaient singulièrement avec ses yeux mélancoliques. Sa voix, ses lèvres, sa barbe clairsemée, ses doigts osseux s'animaient, mais sitôt qu'il était au repos, ses yeux bleus bénins révélaient des abîmes de tristesse, détail qui rassura quelque peu Léo, en cette circonstance tendue pour lui. C'est le tout début de la nouvelle qui s'appelle en l'occurrence Le tonneau magique, qui donne son titre à ce recueil de Bernard Malamud chez Rivage. Et c'est Grégoire Leménager qui va commencer à nous en parler.
Bien.
Eh bien écoutez, vous n'attendez pas à celle-là. Hein. Je change un peu les règles en cours de route pour vous surprendre les uns les autres.
C'est la fin de l'année, tout est permis.
Tout est permis toute l'année ici.
Tout est permis toute l'année.
Sachez-le.
D'accord. Écoutez, alors pour moi ça a été une découverte parce que j'avais entendu parler de Bernard Malamud, je le classais vaguement comme une influence de Philip Roth et je me disais qu'un jour je serais heureux de lire ça, et là vous m'y avez contraint.
proposé.
Vous m'y avez contraint. Et je vous remercie beaucoup parce que j'ai pas été seulement heureux, j'ai été souvent ébloui par son talent de conteur, par sa délicatesse, et par le fait que tout ça n'a pas grand chose à voir avec Philippe Roth, en fait. Que j'aime assez par ailleurs. Hein. Enfin,
là n'est pas la question.
Non, ça m'a beaucoup plus fait penser à Tchekhov qu'à Philippe Roth en réalité.
Oui, mais Roth peut faire penser à Tchekhov, tout ça est très logique.
Donc ce sont des nouvelles qui sont assez rarement drôles, qui peuvent l'être. La dernière en particulier, dont vous avez lu le début, est une pure merveille, je trouve. Donc c'est l'histoire de ce type qui veut devenir rabbin et qui se dit que ça serait bien qu'il ait une femme, donc il peut avoir un marieur qui lui propose, qui lui sort ses petites fiches. Donc tous les personnages sont comme ce marieur, c'est-à-dire qu'ils sont tous pauvres. Il y a vraiment un problème d'argent dans cette communauté juive new-yorkaise. La plupart ont un passé en Europe qu'ils ont fui et qui est sordide, mais c'est toujours par petites allusions comme ça. Et ce marieur est comme tous ces personnages, équipé d'un petit costume rapiécé, il essaye d'être digne et présentable pour vendre quelque chose à quelqu'un. Et en l'occurrence, il a ses fiches sur les filles qui souhaitent se marier. Donc,
mais pas de photos. Hein.
Mais pas de photos.
Attention. Hein.
Et voilà, et il y en a une que j'aime particulièrement, c'est une fille qui lui présente comme ayant 32 ans, donc le futur rabbin se récrit, mais comment, je ne peux pas épouser une fille de 32 ans, j'en ai 27, elle est beaucoup plus vieille que moi. L'autre essaye de plaider en lui disant, mais vous n'avez que 5 ans d'écart, vous verrez, ça, on ne s'en rend pas compte au bout d'un moment. Elle dit non, elle est trop vieille, et puis le lendemain, le marieur revient, lui dit, j'ai une excellente nouvelle. Vous vous souvenez de la fille qui est très brillante, qui est très belle, et dont le père a un peu d'argent Donc le type lui dit, celle qui a 32 ans, je vous ai dit non. Non, elle n'a pas 32 ans, elle en a 29. Et là, l'autre lui dit, ah, vous consentez à me faire un rabais sur l'âge. Et tout est comme ça. Et donc, il y a quelque chose vraiment de très drôle.
Et c'est pas fini parce qu'il la rencontrera.
Et ça, c'est pas fini, histoire. Mais bon,
on va pas tout raconter.
Mais c'est pour donner un peu le ton aussi des relations qu'il y a entre ces personnages qui ne cherchent pas... ce sont pas des personnages malveillants. C'est-à-dire qu'il y a toujours des histoires de petites escroqueries, mais c'est pas malveillant parce qu'on sent que tous ces personnages se battent pour vivre. Ils sont tous pauvres, ils ont tous honte de quelque chose en général. Alors lui, il a honte de ne pas avoir de femme, il y en a un autre qui va avoir honte d'être juif, il y en a un autre qui va avoir honte de pas aimer la lecture et de faire croire qu'il aime la lecture pour se donner une contenance dans le quartier. Et toutes les nouvelles sont construites sur ce modèle-là, c'est-à-dire que ces personnages en général, en plus d'avoir honte de quelque chose, vont se focaliser sur une obsession qui peut être quelque chose d'important. Enfin, le type qui a commencé à rédiger sa thèse, je crois, en Italie, là, puis qui se fauchait sur le premier chapitre de sa thèse. Bon, ça l'obsède, naturellement, et il a l'impression d'avoir été mutilé, mais ça peut aussi porter sur des petites choses. Il y en a un qui tient une sorte d'épicerie, je crois, et puis il y a une gamine du quartier qui vient piquer des bonbons, et il voit que cette gamine pique des bonbons, et ça se met à l'obséder. Il ne sait pas comment lui dire qu'il risque de lui arriver des problèmes, donc il ferme les yeux, mais il veut la prévenir, et tout ça prend... Et cette petite chose prend des proportions extraordinaires sur 7 ou 8 pages, enfin en très peu de choses, avec un art du croquis pour dessiner les silhouettes de ces personnages que j'ai trouvé remarquable, et puis je trouve ça très très bien traduit, et voilà, j'ai beaucoup aimé ça, mais je vais céder la parole peut-être
un petit peu aux autres, mais c'est vrai que dire que la tonalité générale est quand même pas d'une franche gaieté, d'ailleurs dès la première nouvelle, les 7 premières années, avec l'histoire de ce cordonnier et de son ouvrier qui est assez terrible, mais belle aussi.
Très, très belle. Ouais,
mais heureusement, il y a quand même des échappées un peu folles dingues. Et comme vous parlez d'Italie, la précieuse clé qui se situe à Rome et qui raconte une quête de logement. Là, on est quasiment, dans une comédie italienne des années 60. Il y a un peu de ça aussi, Raphaël Neris.
Alors, le côté comédie italienne des années 60 vaut exclusivement pour la clé, mais qui est effectivement une merveille et en même temps qui appartient profondément à l'univers de Malamud dans cette échappée même. Et donc, il y a 3 nouvelles qui se passent en Italie d'ailleurs. Et c'est comme si, alors que tous les personnages de Malamud sont enfermés dans leur arrière-boutique quand ils sont à New York... Même quand ils les envoient, qu'ils font des études sur la beauté, la peinture, et ben ils se retrouvent empêchés exactement comme leurs parents, parce que c'est généralement la génération du dessous, sont des Américains d'Amérique, fils d'immigrés, qui se sentent quand même plus aptes à vaincre l'adversité et le sort s'acharne sur eux. Et moi, je suis pas d'accord avec Grégoire Le Ménager, dont alors j'aime profondément Malamud, mais c'est sur l'absence de drôlerie. Vous dites il y a des petites échappées. Moi, je trouve qu'il y a un humour permanent, mais qui a une forme de cruauté. Pour moi, tous ces textes sont des formidables paraboles sur la comédie, sur la condition humaine, oui, la comédie aussi.
Oui.
Et il y a un humour sous-jacent qui semble nous dire que le tragique qui s'abat sur ces gens, c'est aussi une blague ourdie par Dieu. Et par exemple, la première nouvelle, donc celle des 7 années d'esclavage, oui. quasiment, c'est très évidemment tiré de la Bible et des relations de Jacob avec Laban, si je ne m'abuse. Et on sent qu'il y a aussi cet humour biblique qui existe dans les références de Malamud et qui se sent, selon moi, à chaque nouvelle, y compris les plus tragiques. Alors, il ne se moque pas de ces personnages, mais disons qu'il a une espèce de sourire pour nous dire qu'on n'est pas bien parti et que Dieu va continuer à se charger.
Et que ça peut mal finir aussi voilà. avec ce vieil homme qui
voilà,
ne peut pas
quitter
son logement.
Voilà, et que même quand on est mort... Ça ne s'arrange pas.
C'est vraiment.
Voilà, il y a une nouvelle.
C'est le film
hilarante.
Good Book,
hein? Non, mais il y a une nouvelle hilarante qui se passe dans une sorte de purgatoire ouais. où il y a un. Je ne sais plus comment il l'appelle. En tout cas, la personne qui reçoit les nouveaux morts. Et il y en a un. Il y a donc un nouveau mort qui vient pour raconter comment il en est arrivé là. Et c'est. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des nouvelles les plus drôles de ce recueil. Voilà, je suis très fan.
Laurent Nunez, Malamud et vous?
Oui, mais j'ai découvert Malamud par ce livre-là.
Ah ben voilà.
Également.
On est trois dans ce cas-là.
Donc
merci Raphaël Léris de l'avoir proposé au sommaire de cette émission.
Oui, voilà. Et merci à Rivage d'avoir eu l'idée de le retraduire.
Oui, éventuellement.
Mais aussi, non, je voudrais me le prendre pour moi, si ça ne vous dérange pas.
Ça me va très bien aussi. C'est les nouvelles, normalement, en France, vous savez que c'est vrai que ça ne marche pas trop. Les lecteurs sont pas là. Pourtant, là, ce serait bête de rater ce volume parce que c'est un volume sur une sorte de communauté. C'est extrêmement réaliste parfois et en même temps, on sent entièrement que c'est des paraboles. Alors c'est vraiment ça qui fait la beauté de la chose. On est à New York, on est en Italie, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de misère, de femmes, de désir de rencontrer et tout. Et à chaque fois. On comprend qu'on parle en fait d'autre chose aussi. Il y a une sorte de profondeur incroyable. Alors vous l'avez dit, ça se voit avec l'hilarante dernière nouvelle du tonneau magique, avec d'ailleurs ce titre
qui est expliqué.
Qui reste assez mystérieux et qui est une rencontre très étrange entre cet homme et le marieur. On ne sait pas tout où ça va. À un moment, je croyais même que ça allait vers une sorte de conte d'Hoffmann avec cette rencontre, parce que cet homme, on dirait la mort, vraiment. Alors qu'en fait, c'est tout bête, il ne veut pas proposer toutes les filles. Voilà, on ne dira que ça. Mais donc voilà, il y a ça. Et puis, la plus belle. Et parfois, ça tourne même parfois à du Borges. Les lectures d'été, là, ce gamin qui est persuadé que peut-être sa vie pourrait changer s'il lisait 100 livres. Et tout d'un coup, d'ailleurs, le regard des gens change autour de lui parce qu'on pense qu'il a commencé sa entreprise. On commence un peu, sa sœur commence à lui donner des pourboires, j'allais dire, mais elle commence à lui donner de l'argent de poche. Les voisins le regardent différemment et en fait, c'est un imposteur. Il n'a toujours pas commencé à lire. Et il y a quelque chose de très très beau sur le savoir, sur la bibliothèque. Voilà. Moi, j'étais assez impressionné par cet auteur qui, en effet, s'amuse de ses personnages, mais alors sans jamais se moquer d'eux.
Raphaël Léris.
Moi, ce qui me frappe aussi, c'est la force de l'incarnation et des lieux et des ambiances. Il y a une espèce de lumière jaune un peu triste qui plane comme ça, des odeurs d'arrière-cour qu'il fait planer de manière assez sidérante. Il y a un texte somptueux de Philip Roth, pour revenir à lui, dans Parlons Travail, qui est consacré à Malamud. Vraiment, c'est une merveille, il faut aller le lire. Dans lequel il explique à quel point les personnages de Malamud sont renfermés sur eux-mêmes, ne peuvent pas sortir de chez eux, et que c'est aussi ça qui fait de lui ce grand écrivain de ses vies empêchées. Ils ont des espèces de métiers étranges. Ils sont, alors, étranges, oui et non. Enfin, il y en a un qui est un ancien mireur d'œufs.
Ouais,
l'autre qui
beau,
est
ça.
Un. Et ils sont
les cordonniers reviennent souvent.
Les cordonniers, les épiciers, les boulangers.
Ouais.
Et ils sont dans un temps, et c'est aussi ça qu'explique Roth, dans un espèce de temps de crise permanente, comme si les années 20 s'étaient jamais arrêtées, alors même qu'on sait que certains sont réchappés de la Shoah. Mais ils ne vivent pas dans l'Amérique clinquante des années 50, ils vivent dans une espèce de crise permanente où chaque penny se gagne à la sueur de son front. Et c'est ça aussi l'arrière-texte de ces nouvelles.
Alors, vous avez un doigt sur une page. C'était un fait exprès, Grégoire Le Ménager ?
Non, j'ai retrouvé la page où il y a une allusion à Tchekhov.
Allez, vous nous la faites entendre.
Pour justifier cette comparaison.
Allez.
Non, il y a un personnage qui me dit « Appelez-moi Trofimov comme chez Tchekhov. Ouais. » Je veux dire par là, je suis étudiant de métier en quelque sorte. Je recherchais ce passage parce que, bien sûr qu'il y a une forme de drôlerie. Enfin, on ne se complaît jamais dans quelque chose de sordide. Jamais. Mais quand même, la dernière nouvelle qui est franchement drôle, celle du Marieur, je trouve, cette tonalité franchement comique, on la retrouve pas tellement ailleurs. C'est quand même beaucoup, beaucoup en mode mineur, et ce sont beaucoup des histoires tristes. Enfin, je dis ça pour nos auditeurs qui voudraient passer un moment de rigolade. C'est assez émouvant quand même. Hein. C'est très émouvant tout ça.
C'est la découverte d'une langue, parce que, nouvelle traduction, on va en parler pour 1984, Raphaël Leiris, mais vous ne l'avez pas connu dans cette traduction, forcément,
ce texte-là. Je l'ai malheureusement connu dans cette traduction. Enfin, j'en suis très heureuse, puisque donc c'est le quatrième livre de Mahmoud qui reparaît en France. Et là aussi, où je trouve que c'est très intéressant de voir cette œuvre rééditée, c'est que on a tendance à dire que Mahmoud est un écrivain, un grand écrivain de la littérature juive américaine. D'abord, donc il y a des personnages qui ne sont pas toujours juifs. Et son premier roman, Le Meilleur, qui a été traduit par José Camoun à l'occasion de cette entreprise des éditions Rivage, c'est comme tous ses livres une histoire d'échec. En fait, le sujet de Mahmoud, c'est le ratage du rêve américain. Dans la première nouvelle, donc dans les 7 premières années, le père, celui qui voudrait rêver de marier sa fille à un étudiant et qui se rend compte qu'en fait c'est son ouvrier qui veut absolument se marier avec sa fille, se rend compte d'un seul coup quand il comprend ça que tous ses rêves de vie meilleure étaient morts. Et c'est ça le sujet de Mahmoud, il me semble. Et donc dans Le Meilleur, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est un roman tout ce qu'il y a de plus américain, c'est le baseball. C'est un homme qui part deux fois, essaye de se relancer dans une carrière au baseball. Par deux fois, c'est l'arbitraire absolu qui s'abat sur lui. Et ça nous raconte, ça nous montre un Mahmoud extrêmement divers, tout en creusant un chemin assez précis sur son rapport à l'échec.
Alors je précise, quand vous dites son premier roman Le Meilleur, c'est le titre, hein, Le Meilleur. Est-ce que c'est Le Meilleur? Ça, je n'en sais rien. Mais on a envie, hein, messieurs, d'en lire plus. Parce que la forme longue aussi, c'est vrai que là, on découvre Mahmoud par la nouvelle. Elle lui sied particulièrement, selon vous, Raphaël?
Alors moi, il me semble que c'est une porte d'entrée absolument magnifique dans son œuvre. Mais il y a plusieurs des nouvelles dont je pense qu'elles sont le point de départ de ce qui est pour moi son meilleur roman, qui est Locomie, qui paraît en poche en même temps que Le Tonneau Magique, qui est l'histoire d'un épicier qui se fait avoir par son second. Voilà, qui est vraiment l'histoire d'un échec, qui est baigné d'une espèce de d'onirisme somptueux et qui se passe exactement dans ces arrière-boutiques sombres.
Bon, ben on fera une dernière émission tout entière consacrée au livre. Et en édition de poche, là, il y en a trois pour Mahmoud, chez Rivage, Le Meilleur, vous en avez parlé, L'Homme de Kiev, préfacé par Jonathan Safran Foer, ce qui est très chic. Et Le Commis, préface d'Adam Thirlwell. Donc trois poches, plus ce tonneau magique, recueil de nouvelles, tout cela traduit par José Camoun, un nom qu'on entend quelquefois dans cette émission, qu'on va entendre à nouveau dans la suite de cette dispute, puisque nous parlons de la nouvelle traduction de 1984 de Georges Orwell par José Camoun. Et puis on parlera également du nouveau roman d'Antoine Bello.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la littérature avec donc cet autre livre traduit dans l'actualité par José Camoun, 1984 de George Orwell. C'est parce qu'elle est tombée dans le domaine public que cette traduction, enfin que cette œuvre est aujourd'hui disponible pour une nouvelle traduction. Ça faisait 70 ans donc on connaissait ce texte en français dans la traduction d'origine. Proposer une nouvelle traduction d'un classique, c'est toujours un exercice périlleux, souvent un exercice controversé. On va voir ce qu'il en est ici, après avoir rappelé quand même que 1984 a été publié en 1949, qu'il s'agit d'une dystopie. On est en Grande-Bretagne, 30 ans après une guerre nucléaire qui a eu lieu entre l'Est et l'Ouest, guerre qui est censée avoir eu lieu donc dans les années 50. Un régime totalitaire s'est mis en place, qui emprunte, on le verra, aussi bien au nazisme qu'au stalinisme. La liberté d'expression, c'est assez normal, n'existe plus. Toutes les pensées sont surveillées, les immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous que « Big Brother is watching you », ce qui devient en français, et elle s'en explique d'ailleurs. « Big Brother vous regarde et non pas le grand frère », on en reparlera de cette non-traduction, mais qui était déjà dans l'initiale. On va suivre Winston Smith, 39 ans, employé au ministère de la Vérité, dont le travail consiste à remanier les archives historiques afin de faire correspondre le passé à la version officielle du parti.
Qui commande le passé commande l'avenir. Qui commande le présent commande le passé.
Quelque chose comme 1984 pourrait arriver. C'est la direction vers laquelle notre monde se dirige en ce moment. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autres émotions que la peur, la rage, le triomphe et l'auto-humiliation. L'instinct sexuel sera éradiqué. Nous abolirons l'orgasme. Il n'y aura plus de loyauté excepté celle envers le parti. Si vous voulez une image du futur, imaginez une botte piétinant pour toujours un visage humain. La morale à tirer de cette dangereuse situation de cauchemar est simple.
Don't let it happen.
Ne laissez pas cela se produire.
It depends on you.
Cela dépend de vous.
Voilà, après ces bons conseils de George Orwell lui-même, pour la voix originale, sachant que la voix française provient d'un garçon assis à côté de moi qui s'appelle Boris Pinault, la première page de cette nouvelle traduction de 1984 chez Gallimard. C'est un jour d'avril froid et lumineux et les pendules sonnent 13 heures. Winston Smith, qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s'engouffrer avec lui. Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur. Elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'un mètre de large, celui d'un bel homme de 45 ans environ, à l'épaisse moustache noire et aux traits virils. Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur qui fonctionne rarement, même en période faste, et en ce moment, le courant est coupé en plein jour par mesure d'économie à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au 7e et Winston, qui a 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, la face énorme sur l'affiche l'observe, car c'est un de ses portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. « Big Brother te regarde », dit la légende inscrite en dessous. Voilà pour ce tout début, cette nouvelle traduction, et c'est Raphaël Léris qui commence à nous en parler.
Alors, ce qui me semble un petit peu difficile au moment de commencer à parler de cette traduction, c'est que, je l'avoue avec honte, je ne l'avais pas relu 1984 depuis mes 15 ans.
Voilà, c'était
hier, mais tout de même, ça fait un peu 25 ans.
Je ressors mon boulier.
Ouais. Non, donc à la fois j'ai gardé un souvenir très fort de cette lecture initiale de 1984, mais du coup, savoir ce que j'aurais pensé de la traduction de Amélie Audiberti si j'avais été confrontée là maintenant, mais évidemment plus difficile. Et même si j'ai évidemment re-regardé cette primo-traduction et un petit peu du texte d'Orwell, je n'ai pas joué au jeu des sept erreurs au moment de prendre la traduction de José Camoun.
Bon, il y en a une qui est flagrante, tout de même.
C'est donc le présent, voilà, c'est le choix du présent. Alors, l'explication de José Camoun, je la trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'elle dit le prétérit, c'est le temps des histoires, quelles qu'elles soient, et ça n'est pas forcément le passé. Et il y a une rapidité chez Orwell que le passé simple en français, on fait ce qu'on veut, ça ne marche pas, on se retrouve avec des relatives au subjonctif imparfait, et ça amoindrit la force de frappe de la phrase orwellienne. Franchement, j'ai trop d'admiration pour José Camoun pour me dire elle raconte n'importe quoi. Voilà, dans l'ensemble, je suis très admirative de ce qu'elle fait, donc je n'ai pas de raison particulière. Voilà, il y a quelques passages où j'ai regardé, et je trouve qu'effectivement, il y a une rapidité dans la phrase telle qu'elle est retranscrite là, qui me semble assez convaincante. Il y a aussi à côté de ça des choix. Alors elle n'a pas retraduit Big Brother, elle s'en explique en disant que
c'était le cas dans la traduction première.
Voilà,
c'était
aussi, le cas dans la traduction première, c'est resté Big Brother. Elle s'en explique en disant qu'en gros, si à l'époque c'était
le grand frère, c'était le grand l'Union frère soviétique.
Et c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est Big Brother est beaucoup plus large et c'est Big Brother pour tout le monde. Bon, donc elle a traduit la police de la pensée en Mentopolis. Ce qui était autrefois la novlangue est devenu le néo-parlé.
Le néo-parlé, oui.
Alors, j'ai personnellement des tendances très psychorigides. J'ai tendance quasiment à parler en ancien franc, à dire le nouvel Obs pour l'Obs, le Parisien libéré pour le Parisien, enfin voilà.
Donc, l'observateur, vous dites, je crois, d'habitude.
L'observateur, hein. Voilà. Donc, moi, je peux être un petit peu désarçonnée par ce choix de prendre des choses qui sont à ce point-là dans le langage commun pour les traduire autrement. Et en même temps, j'adore ce panache-là de dire mon sujet, c'est pas de vous faire plaisir avec ce que vous savez d'Orwell, c'est de m'attaquer à cette langue-là précisément. Mmh. Et Orwell ne dit pas novlangue, il dit newspeak, et newspeak, c'est néo-parler. Après, je pense que ça peut se contester de mille manières, mais je trouve que ça donne un panache réel à cette traduction que je suis très heureuse d'avoir relue pour l'occasion.
Alors, pour mes tours de table, peut-être effectivement vraiment sur la traduction, avant de parler du livre, malgré tout. Laurent Nunez, sur cette traduction de José Camoun.
Je vais essayer d'être mesuré, cette traduction est un échec total.
Là, vous êtes mesuré, donc. Okay.
En fait, je me suis arraché les cheveux. C'est pire qu'un... En fait, c'est un contresens.
Il vous en reste. Hein.
Pour l'instant. C'est un contresens. C'est pire qu'un contresens. C'est une attaque du ministère de la vérité ou de la police de la pensée sur Orwell. Vous savez, comment ça se termine, ce livre? Ça se termine lorsque le ministère de la pensée décide de retraduire toutes les grandes œuvres, Shakespeare, etc. Il dit ça va prendre jusqu'en 2050. De retraduire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de subversif dans ces livres. Eh ben c'est incroyable, ils y sont arrivés. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec 1984, ils l'ont retraduit. Et alors, ils ont fait des erreurs, mais alors catastrophiques. Très simplement, ce choix de passer du passé au présent, c'est une folie. Ce livre est une dystopie.
Je rappelle que ce sont des propos mesurés. Hein.
Non mais moi je suis... Donnez-moi une heure, parce que c'est...
Ah oui, ouais, allez-y. Pourquoi c'est une folie ?
1984, c'est une dystopie. Ouais. C'est-à-dire, c'est un lieu qui n'existe pas, Océania, avec des gens qui n'existent pas. C'est ce qui pourrait arriver. Mm-hmm.
Ce qui aurait pu arriver.
Complètement. C'est une utopie négative, une dystopie. Une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mm. En français, il n'y a qu'un temps pour dire ce qui n'existe pas, c'est le passé. Quand je dis si j'étais riche, je crée un monde autre. Il n'y a pas de passé dans si j'étais riche. Il n'y a pas d'idée du passé, vous comprenez bien. Ça veut dire qu'actuellement, je ne le suis pas. Je crée un monde où je serai riche. Donc, le passé, en français, c'est le temps du il était une fois. Du monde impossible que je vais essayer de vous commenter. Tout d'un coup, on décide de transformer en présent, c'est-à-dire qu'on décide de faire croire qu'en fait 1984, c'est 2018, quoi. C'est ce qui se passe maintenant. C'est pire. Genre, on est en plein Big Brother.
On vous suit pas, tous les. Vu les têtes de mes carabins.
C'est-à-dire qu'il y a écrit roman, là, quand même, ce qui permet d'utiliser le présent pour décrire une autre époque que la nôtre. Hein.
Regarde, un autre exemple, pour qu'on comprenne bien ce qui m'agace. C'est le néo-parlé. Ça s'appelait, j'allais dire avant, mais c'est pas un problème d'avant-après. C'est un problème, en effet, de langue et de parole. Avant, c'était pas le néo-parlé. J'ai oublié comment ça s'appelait, c'était la novlangue.
La novlangue.
Il y a une différence essentiel entre la parole, le néo-parlé, et la langue, de la nouvelle langue. C'est une différence qui est établie par les linguistiques, par les linguistes en 1916, ça fait à peine un an. La langue, c'est comme des règles d'échec. C'est-à-dire qu'il y a des règles, on est obligé de tous. C'est des règles qui viennent d'en haut, on est obligé de les faire. En français, on est obligé de mettre un déterminant avant un nom, sinon ça ne marche pas, ça fait une phrase. Et ensuite, la parole, c'est la manière dont nous, dont chacun, va essayer de jouer avec ces règles-là. Donc vous comprenez bien que la nouvelle langue, c'était très intelligent. C'est de dire que ces règles venaient d'en haut. Les règles imposées venaient d'un état autoritaire. C'est ça que ça veut dire. Le néo-parlé, textuellement, ça veut dire que c'est chacun qui choisit, qui accepte de cette nouvelle façon de parler. Mais c'est le contraire.
C'était quand même le newspeak dans la version originale, en anglais.
Vous savez, il y a un livre de Pierre Bayard qui s'appelle « Peut-on améliorer les œuvres ?» Bah, je pense que tout d'un coup, la traduction là était une très belle infidèle. Voilà, nouvelle langue, c'était complètement ce que voulait, à mon avis, ce que voulait Orwell, c'est-à-dire vraiment un monde, voilà, une langue qui vient d'en haut. Et d'ailleurs, c'est imposé par un ministère. La langue est imposée par un ministère. La parole ne peut pas être imposée par quelqu'un. Elle est le propre de chacun. Donc, moi, je suis ahuri par cette transformation de nouvelle langue en néo-parlé.
Bon, on a entendu cet agacement argumenté. On n'est pas forcément tous d'accord autour de cette table. Grégoire Leménager, on reste sur la traduction, là. Et vous avez les deux versions avec vous. Quel bon élève.
Alors,
attention.
La traduction. Le présent,
ouais.
C'est un peu gênant, mais finalement, réflexion faite, moi je l'accepte, parce que je suis sensible à l'argument du prétérit qui est un temps neutre de narration, dont il n'y a pas exactement un équivalent français, donc après tout, pourquoi pas le traduire au présent ? C'est l'aspect le plus dérangeant.
C'est pour le plus moi, voyant vraiment. Aussi même.
Oui, et puis c'est
vraiment on ne le lit pas de la même façon.
On ne le lit pas de la même manière. Mais ça présente certains avantages. Et ça présente l'avantage de nous rapprocher de ces personnages. Et de manière générale, je trouve que cette traduction, qui est beaucoup plus incarnée, qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus concrète, qui est beaucoup plus sensuelle, même avec, quand il y a les scènes d'amour, de rencontres amoureuses et tout ça, il y a quelque chose qui fait que ces personnages ne sont pas des... Je ne sais pas, moi, le souvenir que j'avais de la première lecture de 1984, c'est que ces personnages étaient... On était vraiment dans de l'allégorie, dans quelque chose, dans un univers très froid, très abstrait, avec des personnages qui sont des espèces d'androïdes, qui sont à peine des humains. Et là... Là, ce sont des humains, là. Le type Winston, c'est moi, hein. Enfin, vraiment. Donc il y a quelque chose qui fonctionne. Je pense que le présent joue son rôle, participe de ça. Même si ça reste un choix qui est gênant, hein. C'est certain. L'énologisme, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. C'est vrai. Moi, c'est... Alors, je compte pas en anciens francs, moi, mais je convertis toujours les euros en francs pour les sommes importantes, pour me rendre Merci. Compte de la vraie valeur des choses. Et du coup, une forme de nostalgie qui me fait regretter la novlangue. En plus, je suis pas très convaincu par son argumentation. D'ailleurs, il y a une espèce de post-scriptum qui est d'Orwell, hein, et qu'elle traduit, qui commence par ces mots. Le néo-parlé était la langue officielle de l'Océanie, élaborée pour répondre aux besoins idéologiques du sociang ou socialisme anglais. Donc, c'est vrai que sur le cas de la novlangue, qui vraiment est un néologisme qui s'est imposé, qui est passé dans le langage courant, j'ai du mal à comprendre sa distinction entre le parler et la langue. Je trouve que ça tient pas tellement debout. Et bon, voilà, genre, je me méfie de mes propres réflexes conservateurs, hein, et nostalgiques. Mais quand même, je suis pas très convaincu. La Mentopolis, je trouve que ça fait un peu SF cheap, quoi. SF un peu bas de gamme. Mais bon, mais on est tellement habitué aussi à tous ces mots qu'il faut s'en méfier. Et voilà, donc je suis partagé. Je suis partagé. Je ne suis pas convaincu par l'énologisme, mais en revanche, je suis très convaincu par l'incarnation et le côté très concret de ce qu'elle nous raconte d'un seul coup. Là.
Alors, avant de repartir vers les uns et les autres, Boris Pinault, qu'on a entendu doubler George Orwell, double les auditeurs. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux ?
Alors, d'un côté, donc, sur Twitter, pour Ultra Liberting, 1984 semble avoir subi la même purge simplificatrice et infantilisante que le Club des Cinq. Exit passé simple, adieu mot trop compliqué, bye bye phrase longue, pauvre Georges, et de l'autre, Parati, écrit sur une traduction remarquable.
Bon, alors est-ce que cette traduction qui vous a tant agacé, Laurent Nunez, mais sur des points précis, est-ce qu'elle vous a quand même attrapé par ailleurs? Moi, je suis assez de l'avis de Grégoire Leménager, il m'a semblé qu'il y avait plus de chaleur, plus de chair, plus de sentiments. Et alors, je ne sais pas si c'est... Je pense aussi que c'est quand même lié à ce choix du présent, pour ma part. Mais vous, est-ce que vous avez quand même retrouvé... D'abord, est-ce que c'est un livre que vous aimiez
Bien sûr.
1984,
oui.
Non, mais ça...
Ça pourrait ne pas être le cas après tout. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, je le cache, mais je suis un fan de science-fiction.
Ça y est, c'est fini. Maintenant, tout le monde le sait. Vous venez de le dire.
Il y a quelque chose où c'est résulte. Il y a quelque chose de 1984, c'est un livre. Vous savez, c'est ces livres qui font partie des classiques et qui, tant qu'on les a pas lus, on comprend pas très bien l'époque présente, parce que l'époque présente, finalement, il y a des tas de pour de bonnes et mauvaises raisons, des gens qui emploient des mots de novlangue, de police de pensée notamment. Il y a même des créations d'un comité du nom de l'écrivain, il y a même des chaînes qui ont failli se créer de nom de cet écrivain. Donc voilà, ce qui est intéressant, voilà, c'est de tout d'un coup, on a les règles du jeu quand on lit ce livre. On comprend comment certains vont le tirer politiquement à droite ou à gauche, peut-être plus souvent à droite d'ailleurs, ce qui devrait peut-être l'étonner. Mais voilà, c'est un livre qui la traduction, mis à part ce moment d'agacement sur certains mots, y a le seul avantage, c'est que vous savez, Orwell n'était pas très content de la partie romanesque du livre, qui en effet fonctionne un peu moins bien. J'ai l'impression que c'est plus un homme qui crée des politiques fantaisistes ou impossibles, et que la chair narrative, elle n'était pas très fière. Et alors c'est vrai que ça, elle ressort un peu mieux, elle est plus enrichie, plus galbé, j'allais dire, par grâce à cette traduction.
Plus présente, peut-être, jeu de mots.
Peut-être, mais vous savez, y a Orwell disait dans un entretien, toute simplification du langage entraîne une simplification de la pensée. Bon, voilà, je pense que je pense qu'il parle de cette traduction.
J'adore quand vous faites parler les morts. Raphaël Léré, sur le livre et sur votre ressenti de lectrice au-delà des choix de José Camus dont on a déjà débattu.
Alors j'ai été assez éblouie en fait par la, mais donc toujours avec ce débat de comment l'aurais-je lu aujourd'hui la première version de d'Amélie Audiberti, mais donc par la puissance sensuelle du texte, par la beauté aussi des rêves de Winston qui scande le texte, les rêves avec sa mère, que j'avais un peu oublié, j'avoue, et qui raconte aussi autre chose du livre, qui lui donne une portée romanesque et métaphorique que je trouve très forte. Grégoire a lu tout à l'heure la traduction du début du lexique, qui elle est au passé, ce qui nous raconte donc que le monde de 1984 est allé vers l'échec. Et là, je reviens à la question de la traduction, ça nous raconte aussi, ça fait ressortir un point de 84 qu'on ressentait forcément moins avec le passé, de se dire... Au fond, il y a quand même une forme d'espoir chez Orwell, qui est que ce monde tragique qu'il nous raconte, qui est sidérant à la fois parce qu'il nous raconte sur le totalitarisme, mais aussi parce qu'il nous dit de la soumission des démocraties à Big Brother, enfin de ce qui est en chacun d'entre nous, puisque son sujet c'est aussi que c'est en chacun d'entre nous cette envie d'abdiquer. Donc cette idée que ce monde-là n'a pas triomphé, que quelque chose l'a renversé, je la sens d'autant plus forte avec ce décalage du temps, et ça me plaît beaucoup.
Bien, ben voilà, on a fait un tour.
Allez
Laurent Nunez, un truc gentil. Pardon. Alors oui. On va garder truc gentil pour la fin parce que ça va être trop bien. Grégoire Leménager sur 1984 encore.
Non, le grand mérite c'est aussi que ça nous fait relire 1984 qu'on n'avait pas lu depuis longtemps, souvent, et à un moment où tout le monde passe son temps à citer Orwell. C'est-à-dire que Orwell qui a toujours été récupéré de tous les côtés, qui a été récupéré par la droite ultra-libérale face aux soviétiques, qui aujourd'hui est brandi contre Trump et les fake news, et puis en France qui est récupéré quand même par ce qu'on peut appeler les conservateurs. Mmh. Ça va de souverainistes qui se disent ni de droite ni de gauche à des gens qui se disent vraiment de droite. Je lisais l'autre jour un article sur un type. Ces trois auteurs de référence, c'est un type d'extrême droite. Ces trois auteurs de référence, ce sont Maurras, Barrès et Orwell. Qu'est-ce que Orwell, qui a été socialiste jusqu'au bout de sa vie de façon viscérale, qui était très critique sur le communisme mais qui était quand même socialiste, vient faire là-dedans. C'est assez étonnant. Donc c'est intéressant de leur lire. Et en particulier, alors Alors les gens d'extrême droite qui s'en réclament, je leur conseille vivement de lire juste au moins jusqu'à la page 18 où la population lobotomisée de ce pays assiste à la projection d'un film où ils applaudissent, ils trouvent ça merveilleux, où on bombarde un bateau chargé de migrants qui essayent de traverser la Méditerranée. Mmh. Voilà, et c'est quelque chose que Orwell dénonce très très violemment. Donc comme quand Jean Raspail se réclame de George Orwell par exemple, c'est un peu étrange. Voilà. Et ça, rééditer ce livre avec une nouvelle traduction, ça permet de le relire et puis de se rendre compte qu'il y a des gens qui exagèrent un petit peu dans la manière dont ils l'utilisent.
Oui, légèrement. Allez, le mot de la fin positif de Laurent Nunez.
Non, positif, c'est parce que la plupart des auteurs de science-fiction, ils essayent d'imaginer un monde technologique futur. Lui, il y en a très peu, à part peut-être ces écrans d'ailleurs qui nous espionnent et qui font un lien avec l'actu, parce que on a désormais des haut-parleurs connectés qui nous écoutent à longueur de journée. Il faut même prévenir les gens lorsqu'on est chez soi qu'on est écouté. Donc il y a un rapport, mais c'est le premier auteur de science-fiction qui donc est presque indépassable, qui dit que là, le grand danger, ça va être la com. C'est ça, le grand danger, ça va être la gestion des mots, permis et non permis. Et ça, du coup, ça ne peut pas vieillir. Parce que la langue ne peut pas vieillir.
Neuve ou pas, la langue ne peut pas vieillir. 1984 de George Orwell, traduction José Camoun, c'est publié chez Gallimard.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Le troisième livre au sommaire de cette dispute, on ne va pas se disputer sur sa traduction, puisqu'il est l'œuvre d'Antoine Bellot, qui est écrit a priori en français.
Encore que. Hein. Oui.
Ah, ça y est, je le sentais venir. Bon, le livre s'appelle...
C'est pas traduit par José Camoun, ce film.
Enfin, bon, le livre s'appelle Scherbus et moi, ou Scherbus, comment je ne sais pas comment vous dites, Laurent Nunez. Bon, il est publié chez Gallimard aussi. On verra si on en doutait que psychiatre est un métier pas forcément de tout repos, surtout lorsqu'on décèle chez son patient ce que l'on croit être un trouble de la personnalité multiple. Donc dans ce nouveau roman, l'auteur de romans américains et des falsificateurs nous fait plonger, on verra de quelle façon, dans cette relation patient... tous les mots sont compliqués.
Oui,
hein. Bon. Enfin, on pourrait se demander qui est le véritable imposteur dans cette histoire. Et d'ailleurs, qui est l'auteur de ce livre? Est-ce que c'est José Camoun? Tirer son histoire à Scherbus n'a pas été sans mal. Des minutes entières peuvent s'écouler sans qu'il décroche une parole. Je me conforme à son rythme, tant il est visible qu'il n'a pas l'habitude de s'épancher. Certains souvenirs d'enfance semblent profondément enfouis. Il faut toute mon expérience pour les ramener à la surface. Parfois, gêné de s'être laissé aller à des confidences, Scherbus m'implore de les oublier, comme si l'on pouvait purger sa mémoire en actionnant un interrupteur. Nos séances ont lieu les lundis, mercredis et vendredis, entre 11h et midi. Scherbus m'autorise à les enregistrer, à condition que je n'écoute pas les cassettes en sa présence. Il répugne à entendre le son de sa voix, pour des raisons que le lecteur comprendra plus tard. J'observe attentivement son langage corporel. À qui en connaît les codes secrets, la posture fournit de précieux enseignements. Scherbus est le plus souvent penché en avant, les jambes écartées, les pieds fermement posés au sol, d'évidents signes de franchise, voire de confiance, lorsqu'il se renverse en arrière en joignant ses mains derrière sa nuque. De temps à autre, cependant, je le vois se recroqueviller, croiser les jambes, humecter les lèvres, cligner bizarrement des yeux. Il ne soutient plus mon regard, fixe la pendule au-dessus de la porte ou une étagère de la bibliothèque. Je sais alors qu'il s'apprête à me mentir ou, plus exactement, à me livrer la version de la vérité qu'il est capable de supporter. Il est dans ces moments souvent question de son père. Voilà, cet extrait de Scherbus et moi, c'est un extrait qui se situe plutôt au début du premier livre Scherbus, parce qu'il va falloir commencer à expliquer un peu où l'on a mis les pieds, et c'est Laurent Nunez qui va s'en charger.
Ouais, bah pour expliquer la structure de ce livre, il faut parler d'Antoine Bellot directement. vous savez, il n'y a pas encore de nom à ça, il faudra inventer un nom. Initialement, je suis Antoine Bellot de peut-être une dizaine d'années par là. Il y a des écrivains, ils ont parfois des très très bonnes idées, et puis quand on le lit, on se dit ah oh, zut, Mais c'était, l'idée était fameuse. C'était le cas, ça m'a fait le coup à presque tous les premiers Amélie Nothomb. Vous savez, les idées étaient très bien pensées, et puis le texte n'était pas écrit. Initialement, au début, quand j'ai connu l'œuvre d'Antoine Bello, c'était grâce à des polars de Gallimard. Mmh. Et puis d'abord chez le polar, un livre à la technique assez ressemblante qui s'appelait Éloge de la pièce manquante, un meurtre. Dans un groupe fan de Pulse, et chaque chapitre c'est un Pulse, c'est un élément de ce Pulse là, et à la fin on doit trouver qui a tué. Et donc voilà, on a rien qu'avec ça, l'idée d'Antoine Bello, c'est de construire à chaque fois, c'est que la forme compte énormément. C'est pas un styliste, hein. Il y a peu de choses là-dedans, mais c'est pas grave parce que de toute façon il prend presque jamais la parole, c'est ses personnages qui parlent à sa place. Et alors là il a réussi quelque chose. Moi ce livre je l'ai dévoré parce que j'ai dévoré Feu pâle de Nabokov, qui obéit en plus à peu près à la même chose. Feu pâle, c'était un homme qui essayait d'analyser un poème de son voisin, et en fait il était persuadé que ce poème ne parlait que de lui. Alors que pas du tout.
C'est bien résumé.
Voilà. Chervil, c'est moi. C'est l'histoire d'un psychiatre, Maxime Leverrier. Ce qui est embêtant avec Antoine Bello, c'est que les pseudonymes ou les noms et tout sont toujours très trop clairs. Mais c'est pas grave. Il y a Maxime Leverrier. Un jour, on lui propose un nouveau cas. C'est un psychiatre. On lui propose un nouveau cas, Cherbius.
Puis il est jeune, il vient de s'installer, il a pas de clients, ça tombe bien.
Voilà. Il y a un de ses confrères qui vient lui proposer un nouveau cas d'un type un peu bizarre, une sorte d'escroc ou imposteur, en tout cas plein de personnalités multiples, une sorte de caméléon. Il accepte et il a à peine le temps de se retourner qu'en fait l'autre enlève la barbiche et hop. En fait, voilà, le femme psychiatre était le patient. Voilà, c'était Cherbius, c'est la première rencontre, et on va suivre leur péripétie mentale, leur dialogue. Et alors l'astuce, c'est quoi? C'est que dans ce livre-là, il y a cinq ou six livres. Il y a six livres exactement, ouais. Puisque le premier livre, le plus long, parce que
qui s'appelle Cherbius, voilà. Ou Scherbius, selon comment on le prononce.
Oui, c'est Cherbius, c'est publié. En fait, donc c'est publié aux éditions du Sens.
Ouais.
Voilà, parce que Maxime Leverrier est un psy qui veut se faire connaître, et donc il publie des cas, comme Freud l'a fait avec le cas, ouais. Schreber, c'est pour, ouais. Ça que je pense que c'est Cherbius. Il l'a fait avec le cas, voilà, ou comme Lacan le faisait avec Aimé.
Il m'a pas raté, hein. Mais non. Laurent Nunet.
Ça me dérange pas. Et donc, à cause de vous, j'essaie de parler et j'essaie de trouver un jeu de mots avec la porte. Vous êtes content?
Oh, bah,
on en est là.
Si vous voulez, on peut revenir à l'école primaire. J'en ai plein.
Et donc, c'est une étude de cas. Il raconte le cas, le livre cartonne, et tout d'un coup, il y a une sorte de page noire, et on arrive vers la page 150, on est à Cherbius, mais alors, deuxième édition, ouais. Parce que du coup, le psy n'avait pas fini, et il commence à dire, nouvelle édition du livre, il raconte que tout est faux. En fait, l'autre l'a dupé.
Ça y est, vous le dites.
C'est pas grave parce que tout est toujours faux.
La première ligne du deuxième livre, c'est tout ce que vous venez de lire est faux, tiré, ou à peu près, point.
Oui, mais c'est pas fini.
Bah, qu'est-ce qui se passe?
Après cette deuxième édition, il y a une troisième édition qui arrive, une quatrième, une cinquième. Et à chaque fois, avec des choses très fines, des exergues, des indices qui montrent qu'il y a des choses qui apparaissent dans la vraie vie, et une dispute ou une réunion, en tout cas, une grosse dispute, on va dire, entre le psychiatre et Cherbius. C'est un livre vraiment extrêmement drôle.
Va-t-il y avoir une grosse dispute sur ce livre? On va le savoir déjà avec Grégoire Leménager.
Oula. Ouais. Non, c'est pas extrêmement drôle.
Il fait une tête.
L'idée de départ, elle est très bonne. Antoine Bello, il est très malin. Il a construit son jeu de Lego. Qui nous propose cette espèce d'amitié expérimentale là, entre un type qui est plutôt cigale et l'autre qui est plutôt fourmi, le psychiatre étant quand même un type assez besogneux, dont on se rend compte au fil du temps qu'il est aussi peut-être un peu cupide, je sais pas s'il a un PEL à remplir, mais il y a un problème d'argent entre les deux, et le problème c'est que tout est raconté par ce psychiatre. Alors Antoine Bello, peut-être qu'il est conscient qu'il a un style un peu maladroit. C'est donné comme ça, c'est donné comme les livres du psychiatre.
Ah, tout à fait.
Si.
On voit de quoi on parle. Nous.
Et ce psychiatre est extrêmement vaniteux, passe son temps à surexpliquer parce qu'il est un peu, il est pas très subtil comme garçon, donc il passe son temps à surexpliquer à son lecteur qui pas de chance, et moi, c'est moi son lecteur, et donc il passe son temps à me surexpliquer tous les codes qui ont été utilisés par le personnage. Donc c'est une façon pour Antoine Bello en plus en permanence de s'envoyer des fleurs sur pour souligner l'érudition dont il fait preuve, pour souligner l'ingéniosité des scénarios qu'il prête à son personnage, etc. Il y a un moment où c'est un peu pénible. Et c'est dommage parce que l'idée, elle est bonne, elle est assez drôle. Et il aurait pu faire un livre de 200 pages très bien avec tous les renversements. Et tout ça. Et ce psychiatre, en plus, nous promet depuis le début un livre qui va être quasiment dostoïevskien sur les vertiges de l'âme humaine. Et on se retrouve à lire un Arsène Lupin.
Vous exagérez dans un sens comme dans l'autre, il me semble, quand même, vouloir le ménager.
Mais non,
mais
non,
ça, c'est votre tour d'être agacé.
Le problème, c'est vraiment que c'est long et que c'était pas une bonne idée, je pense, pour le coup, de confier toute la narration de ce livre à un personnage aussi besogneux et vaniteux, parce que c'est une compagnie dont on finit par se lasser quand même au bout de 440 pages, pardon.
Raphaël Leris rongeait son frein, mais elle va intervenir.
Alors, je ne trouve pas ce livre hilarant, mais je le trouve très drôle, et notamment parce que pour moi, Maxime Le Verrier, c'est une sorte de Homais de la psychiatrie, et que pour moi, Bello se moque de Le Verrier comme moi je me moque de Le Verrier, et que son caractère besogneux, c'est une blague entre nous. Voilà, à part ça, justement, je ne voudrais rien divulgacher, mais au fil des versions, Cherbus, Kerbus, enfin tout le monde rentre dans la narration. Et la vraie question du livre, qui est, je crois, de manière assez générale une question chez Bello, c'est qui est écrit et qui écrit.
Bien sûr.
Il a un petit côté borgésien, alors je sens que ça va vous faire ricaner, Grégoire, mais oui, il a un côté borgésien sur qui écrit, qui est écrit, et qui rend les dernières versions, quand on peut se dire « Ah, ça va, j'en ai un petit peu ras-le-bol de cette surenchère », et ben qui les rend, pour moi, très intéressante. Je ne prétends pas que c'est un grand roman dostoïevskien sur l'âme humaine, mais je pense que c'est un livre très intéressant sur la psychiatrie, sur un duel de deux intelligences à distance, qui est un sujet aussi récurrent chez Bello. Et je trouve que le duel entre les deux est très réussi de ce point de vue-là. Et sur la réflexion sur qui écrit, sur qui est un acteur du récit, pour moi, c'est assez convaincant et c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire.
Oui, et puis il faut dire, certes, le premier livre est le plus long, mais justement, parce qu'il a quand même... Il sait faire Antoine Bello, hein, et chaque version propose un texte plus court, parce qu'il s'agit à chaque fois de... Bon, beaucoup de choses passent comme dans un bowling, quoi. Toutes les quilles tombent parce que les différents points d'appui qui étaient ceux du théoricien, qui se dit voilà mon cas clinique, j'ai tel et tel et tel et tel élément, donc je pose tel diagnostic, et évidemment, bram, deuxième édition, c'est autre chose, troisième, etc. Et donc, on peut aussi le lire comme un texte sur la psychanalyse, voire sur la psychiatrie. C'est pas le plus inintéressant, parce que c'est ça que je trouve plutôt intéressant toujours avec Antoine Bello, c'est qu'il ses livres, pour fantaisiste qu'il puisse être, il y a beaucoup de fantaisie. Moi, ça m'a quand même beaucoup amusé cette lecture. Il y a quand même c'est son côté américain, Antoine Bello, hein. Il y a de la documentation, il y a du travail. Je ne doute pas qu'il ait lu des cas célèbres de psychanalyse et de psychiatrie, et que ça nourrit quand même ce livre. Laurent Nunez, oui. Êtes-vous d'accord?
Ah oui, non, complètement. Non. Alors, tous ceux qui ont fait ou qui font une psychanalyse seraient outrés de lire ça, parce qu'on n'est pas... au début, c'est ce que je me suis dit, mais en fait c'est un psychiatre, donc c'est autre chose. Mais c'est extrêmement bien documenté, il y a des appels de notes, parce que de toute façon, comme il limite un manuel de psychiatrie, c'est il y a là-dedans...
Il a bossé, bosse Antoine Bello.
Il y a un effet de réel qui est là, qui me semble intéressant. Moi, ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'en effet, c'est un immense éloge de la fiction. Ce type, Cherbus.
Oh, il n'est pas content, Grégoire Le Ménager, il ne partage pas du tout.
Non, mais c'est tellement, tout ça est tellement surligné que. Bien sûr, je ne veux pas être trop violent, mais il a de très bonnes idées, il a beaucoup travaillé, il y a beaucoup d'érudition, il y a des rebondissements très, très malins, mais tout ça manque de grâce, mais considérablement, parce qu'il a donné la parole à un narrateur, ou à je ne sais pas combien de narrateurs, peu importe, qui passent leur temps à décoder ce qu'ils font et ce qui se passe. Des choses qu'on comprend.
Dernier mot. Non, parce qu'on vous a interrompu un peu.
Oui, pardon, phrase, pardon, mais...
Non, c'est moi qui ai proposé d'intervenir.
Non, mais en fait, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose quand même à lire. Souvent, il avait écrit Les Falsificateurs juste auparavant, qui est quand même très orwellien, parce que c'était vraiment ça, c'était réécrire l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un à suivre, absolument. Même si, je le redis, c'est pas un styliste. C'est quand même assez rare, autant d'imagination.
Dernier mot, Raphaël Léris.
C'est aussi un grand lecteur de feuilletoniste du tournant du siècle. Et donc, il nous balance des choses qui n'ont pas d'explication. Et c'est pas grave, c'est parce que c'est un feuilletoniste. Et donc, il y a aussi ce rapport-là à la fiction que je trouve assez délectable.
Scarbius, ou Scherbius, et moi, d'Antoine Bello, est publié chez Gallimard. On conclut comme chaque soir avec le jeu de la dispute et Camille André qui nous rejoint après avoir vaillamment live tweeté. On a rappelé la question du jeu d'hier au soir, Camille, et sa réponse donc.
Alors quel acteur fétiche de Fassbinder incarne le rôle d'Harald dans 8 heures ne font pas un jour? Et il s'agit de Kurt Rabb.
Ce soir, des exemplaires gagnés de la revue de France Culture, la revue papier numéro 25, « Où vivons-nous ?» Une question d'Antoine Bello. Les paysages et les pays, édité par les éditions Radio France, c'est Exil la question, Camille.
Eh bien, ce numéro de la revue papier contient l'entretien réalisé pour À voix nue avec Isabelle Huppert. En 1993, quel personnage de Virginia Woolf incarne-t-elle seule sur scène au théâtre de l'Odéon?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Nous vous attendons demain en public au Bel Air, au bar de la Maison de la Radio ou sur les ondes dès 19h pour notre dispute consacrée demain aux séries. On sera avec Lucille Comeau, Iris Bray, Olivier Joyard à notre sommaire Soupçons de Jean-Xavier de Lestrade, série documentaire au très long cours qui trouve ces temps-ci son épilogue. Et puis nous parlons de Three Girls de Nicole Taylor, diffusée sur Arte, et de Sense8, le final de Lana Wachowski.